Ben dans une loterie, vous faites un tirage. Un premier tirage. A. Un second tirage. B. Un troisième tirage. C. Chacun de ces tirages est strictement indépendant des autres. Au point qu'au bout d'un certain temps, vous devez changer celui qui tire pour qu'il n'ait pas de dépendance musculaire de la part du tireur. Imaginez l'autre situation. Une drôle de chaîne. On va faire une chaîne. Une chaîne de tirage au hasard, mais chaque tirage au hasard dépend de celui qui précède. Une telle chaîne, elle est devenue bien connue en mathématiques, en cybernétique, sous le nom de l'un de ses créateurs, chaîne de Markov. M-A-R-K-O-2-F-O-V, à votre choix. Chaîne de Markov. Et pour mieux comprendre, là, je donne un exemple rapide, mais voilà. Markov avait commencé par étudier une drôle de chose. Comment on peut faire du faux latin ou du faux anglais, du faux français? Comment on peut fabriquer une fausse langue? C'est bien connu sous le nom de problème des jargons. Comment faire du jargon? Vous pouvez toujours concevoir, alors vous vous donnez une série d'urnes, hein, des urnes, des boîtes. Je suppose que je me donne la règle suivante. Chaque boîte va contenir des groupes de trois lettres. Dont les deux premières sont constantes. Dont les deux premières sont constantes. Alors, dans votre première urne, vous mettez ABA, ABC, ABB, ABC, ABD, ABE, ABF, etc. Dans la seconde, vous mettez BCA, BCB, BCC, BCD, etc. Donc, chaque urne contient un groupe de, on appellera ça de trigramme, groupe de trois lettres, dont les deux premières sont constantes. Si vous faites ça, ça donne rien encore. Mais vous savez bien que sur une langue, il est capable de faire des calculs de fréquence. Par exemple, au niveau des groupes de lettres. On dira en français que la lettre Q, dans un nombre maximum de K, est suivi par U. Et on pourra calculer la fréquence du groupe QU par rapport à des groupes comprenant Q qui ne seraient pas suivis de U. Là, immédiatement, je ne vois que coq. Bon. De même, en français, il y a une fréquence importante où la lettre H est précédée par C. Vous pouvez calculer, et là les ordinateurs servent beaucoup, évidemment, c'est pour ça que tout ça est très lié à des problèmes d'ordinateurs et que les chaînes de Markov pouvaient guère être découvertes avant. Vous pouvez établir la fréquence de CH. Donc supposons que vous fassiez des calculs de fréquence sur une langue, ça a été très souvent. Vous pouvez faire aussi des calculs de fréquence sur la langue d'un auteur. Ça a été fait notamment pour Joyce, dans les conditions très intéressantes. Vous pouvez faire des calculs de fréquence, pas seulement sur des groupes de lettres, mais sur des mots. Ça a été fait pour Mallarmé. Bien. On ne sait pas bien où ça mène, tout ça, si, ça va permettre de faire des jargons. Des faux Mallarmé, des faux Joyce, tout ça. Mais comment vous allez faire? Vous prenez un seuil de fréquence qui vous assure donc que votre trigramme, c'est-à-dire votre groupe de trois lettres, a une certaine fréquence dans la langue considérée. Voilà. Et puis vous y allez. Vous tirez d'une urne, vous prenez une urne, vous prenez l'urne, chaque urne donc est définie par les deux premières lettres. Des trigrammes. Vous prenez la lettre, vous commencez par la lettre, par l'urne IB. Dans l'exemple là que j'ai sous les yeux, tiré d'un livre de Ruyère dont je vous parlerai, et là, dans le cas qui nous occupe, on tire U. On écrit donc IBU. Le premier tirage vous a donné IBU. C'est un tirage de loterie. IBU. IBU. Là-dessus, vous avez deux cas. Ou bien vous allez prendre n'importe quelle urne et faire un nouveau tirage. À ce moment-là, ce sera une succession de tirages au hasard indépendants. Ou bien, vous avez déjà deviné, j'espère, vous allez prendre l'urne BU. Et vous tirez. Supposons que vous sortiez BUS. De l'urne IB, vous avez sorti IBU. De l'urne BU, BU, les deux dernières lettres, vous avez sorti BUS. Il vous reste à prendre la boîte US, US, dont vous allez sortir USC. USC. Puis de la boîte SC. Vous allez sortir SCE. Bon. Vous avez une suite. Là-dessus, évidemment, vous vous donnez le droit de la couper. Ce qui vous donne, je vous lis lentement. Je fais appel particulièrement à ceux qui ont fait un tout petit peu de latin. Ibus, IBUS. Coupure. Vous coupez là. Cent, C-E-N-T. Coupure. Vous avez continué vos tirages. Ipitia, I-P-I-T-I-A. Coupure. Vétis, V-E-T-I-S, etc. Comme on dit, en gros, ça a l'air incontestablement d'être du latin. Et vous voyez pourquoi. C'est pas compliqué, ce serait étonnant, puisque vous avez retenu des trigrammes d'après des fréquences. D'après des fréquences statistiques effectuées sur l'ensemble de la langue. Vous pouvez faire de même du faux anglais, c'est ce qu'on appellera un jargon. Vous avez fait du jargon latin. Vous pouvez de la même manière faire du jargon joycien. même ce jargon latin, là, dans cet exemple, l'exemple est particulièrement développé par, dans un livre, justement, d'un linguiste qui s'appelle Guiraud, Les caractères statistiques du vocabulaire. Bon, vous pouvez fabriquer des jargons. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je raconte tout ça? Je raconte parce que vous avez le cas typique, ça doit vous faire comprendre ce qu'on appelle une chaîne de Markov, plus que si je la définissais par des formules mathématiques. Vous voyez que chaque tirage se fait au hasard, dans l'urne, mais chaque tirage en même temps dépend du tirage précédent. Puisque vous avez choisi là comme seconde urne celle qui était déterminée par les deux derniers mots du trigramme choisi dans la première urne. C'est exactement ce qu'on appellera des phénomènes aléatoires semi-dépendants. Ou des phénomènes aléatoires partiellement dépendants. Il y a chaque fois tirage au hasard, mais dans des conditions de dépendance entre les urnes et les tirages successifs. Vous n'êtes donc pas dans la condition de la loterie. Vous n'êtes pas non plus dans les conditions d'un déterminisme. C'est du semi-aléatoire, c'est une chaîne de Markov. C'est-à-dire qu'à la lettre, c'est un mixte, c'est un mélange, quoi, c'est un mélange structuré, on dirait que c'est un mélange structuré, en sens qu'il n'est pas structuré comme la langue, et que pourtant ce n'est pas un mélange au hasard. Deuxième direction de recherche, pour aller vite. À première vue, ça n'a rien à voir. Dans la cosmobiologie, dans l'éternel problème, mais comment est-ce que un organisme vivant a-t-il pu se former? Il y a longtemps que des biologistes faisaient une hypothèse, et des physiciens, ou des chimistes, faisaient une hypothèse très intéressante. Ils employaient eux aussi, bien avant l'échelle de Markov, une comparaison langagière. Il disait, si vous vous donnez des lettres au hasard et que vous tirez, vous avez très peu de chances de tomber sur un mot. Mais si vous vous donnez des syllabes, vous avez évidemment beaucoup plus de chances de former un mot. Et cela leur donnait l'idée d'état intermédiaire. À savoir, il disait, est-ce qu'on ne pourrait pas concevoir l'apparition du vivant sous la forme suivante? À travers un passage par des états intermédiaires, à condition que ces états soient stables. Et l'on passerait d'état intermédiaire en état intermédiaire par fluctuation. Par fluctuation autour de la moyenne de l'état précédent. Ça veut dire quoi en cosmobiologie? Ça veut dire que, par exemple, on part d'un état de corps particulier qu'on appelle les colloïdes, qui n'ont rien de vivant. Les colloïdes, voilà, premier état. Dans certaines conditions à déterminer, il y a une fluctuation, ce qu'on appellera une fluctuation, par rapport à l'état moyen du colloïde. Et cette fluctuation donne ce qu'on appelle un coacervat. Par exemple, un coacervat composé de composés carbone. Bon. Des fluctuations par rapport à un état moyen, on en trouve constamment. Remarquez, je le dis tout de suite, parce que c'est essentiel, on en trouve constamment. Même dans un gaz, avec répartition brownienne des particules, avec répartition des particules au hasard, vous trouverez constamment des fluctuations. Qu'est-ce qu'on appellera une fluctuation ? Un moment où un nombre insolite de particules se groupe dans une région précise. Mais ces fluctuations sont comme immédiatement neutralisées ou compensées. D'habitude. C'est ça qui empêche l'état intermédiaire de prendre. À peine il est formé qu'il est déjà dissipé. Donc le problème de la cosmobiologie, ce sera, est-ce qu'on peut imaginer des conditions où une fluctuation se formant par rapport à un état donné, la fluctuation ne serait plus dissipée, mais au contraire amplifiée, de manière à donner un nouvel état. C'est un problème fondamental. Alors, laissons de côté pour le moment le problème des conditions, puisqu'on le retrouvera. À quelles conditions une fluctuation, au lieu de s'annuler, s'amplifie? Mais essayons de mieux comprendre. On part de l'état colloïde. Fluctuation par rapport à son état moyen. Ça nous donne un nouvel état, coacervate composé carboné. Un ensemble de composés carbonés. Il y a toute chance, encore une fois, pour que la fluctuation s'annule. Supposons qu'elle ne s'annule pas à certaines conditions. À ce moment-là, d'intermédiaires, il y aura de nouveaux intermédiaires, je saute, c'est pour aller vite, on finira par la possibilité de chaînes d'enzymes ou de chaînes de protéines. Chaînes de protéines qui ne formeront pas encore un organisme vivant. Mais d'état intermédiaire en état intermédiaire, c'est-à-dire de fluctuation amplifiée à fluctuation amplifiée, est-ce qu'on ne peut pas concevoir d'une autre manière, d'une nouvelle manière, le problème de l'origine de la vie? C'est très différent d'une formation au hasard, vous voyez. C'est quoi? Qu'est-ce que je suis en train de vous raconter? C'est une chaîne de Markov au niveau de l'évolution. C'est une chaîne de Markov. Vous avez exactement une série de tirages dépendant les uns des autres. Une série de tirages au hasard dépendant les uns des autres. Où chaque fois la fluctuation marque un hasard. Qui, s'il n'est pas annulé, s'il a des conditions d'amplification, va aller vers un nouveau tirage qui à nouveau va produire. Vous avez un enchaînement de tirages dépendant les uns des autres, bien que chaque tirage soit aléatoire. Vous avez une chaîne de Markov. Ou une espèce de chaîne de Markov. On garde pour le moment, là, tout ce que je dis ne vaut rien, si on oublie le problème, c'est très bien tout ça, mais pour qu'une fluctuation engendre un nouvel état, qui sera dans un rapport semi-aléatoire, vous voyez, il sera exactement dans un rapport aléatoire partiellement dépendant de l'état précédent. Le coacervate composé carboné sera par rapport à l'état colloïdal dans un état de, dans un rapport de semi-dépendance, dans un rapport aléatoire semi-dépendant, à condition, encore une fois, et je n'ai pas du tout encore posé les... répondu à la question, à condition que la fluctuation ne s'annule pas. Il y a un texte de Darwin, une lettre de Darwin, moi, que je trouve géniale, où Darwin, jeune, non, pas si jeune d'ailleurs, dit, on nous dit tout le temps, si la vie avait commencé, pourquoi pourquoi elle ne pourrait pas recommencer aujourd'hui? Les anti-évolutionnistes du temps de Darwin invoquaient déjà cet argument. Si ça s'est fait une fois, pourquoi ça ne se ferait pas une autre fois? Et Darwin répondait, ben justement, c'est très difficile aujourd'hui qu'une autre forme de vie se forme, disait Darwin. Et pourquoi? Supposez que dans un petit étang, donc il est génial ce texte, génial, parce qu'il nous donne la réponse, supposez que dans un petit étang, à croire que dans une grande mer, ça ne jouerait pas. Supposez que dans un petit étang se forment des coacervates à partir d'états colonitaux. Eh bien, aujourd'hui, ils n'ont aucune chance de faire une fluctuation amplifiante. Pourquoi? Parce qu'ils seraient mangés tout de suite. Ils seraient mangés tout de suite par les vivants déjà là. Ils seraient immédiatement absorbés. Il y aurait toujours un poisson pour les avaler. Alors, si la vie, elle a pu se produire qu'une fois, c'est pour une raison simple, c'est que dès qu'elle s'est produite, elle consomme tout. Alors, il n'y a pas beaucoup de risque qu'une autre forme de vie puisse se former avec des chaînes d'un autre type. Les chaînes d'un autre type sont immédiatement englouties. Mais sa remarque dans un petit étang, elle doit nous enchanter à nouveau, car elle nous met sur la voie de la solution. À quelles conditions? Une fluctuation peut être amplifiante. Mais c'est une voie, on ne sait pas encore. Voilà la seconde direction de recherche, donc, la cosmobiologie. Or, je conclus ce point, encore une fois, parce que je voudrais aller très doucement. Voyez que cet enchaînement d'états stables intermédiaires, où l'on passe de l'un à l'autre par fluctuation amplifiée ou amplifiante, forme une chaîne de Markov, ou une espèce de chaîne de Markov, c'est-à-dire un enchaînement de phénomènes aléatoires, partiellement dépendants. Troisième ordre de recherche, les recherches faites par Prigogine et Isabelle Stengers. Car c'est justement des recherches portant sur les fluctuations et posant directement, c'est le chapitre 6 de la Sainte Alliance, posant directement la question, dans quelles conditions une fluctuation est-elle amplifiante? Et dans quelles conditions est-ce qu'au contraire, elle s'annule ou est compensée? Donc, il devrait nous donner une réponse au problème que nous posions tout à l'heure. L'état primaire, où les fluctuations sont immédiatement compensées, c'est encore une fois l'état de la théorie cinétique des gaz. Un grand nombre de particules se distribuent dans un milieu fluide, même à la limite, on dira idéalement fluide, un grand nombre de particules dans un milieu idéalement fluide. Qu'est-ce qui se passe pour leur mouvement? Elles ont, chaque particule a ce qu'on appelle un libre parcours. Le libre parcours, c'est quoi? C'est la distance moyenne parcourue par une particule avant d'être choquée par une autre particule. J'insiste sur libre parcours. Pourquoi il faut le milieu fluide d'un gaz? Parce que dans un solide, les particules ne sont plus indépendantes. pourquoi les particules ne sont plus indépendantes dans un solide ou même dans un liquide? Parce que l'état même du solide ou du liquide les rassemble dans une région où elles perdent leur indépendance même. Elles sont prises dans la région du solide de telle manière qu'elles n'ont plus de libre parcours. Elles perdent leur libre parcours. Dans un gaz, avec mouvement brownien des particules, vous voyez, ce mouvement brownien, c'est donc une particule fait un parcours jusqu'à ce qu'elle soit choquée par une autre particule qui l'envoie dans une autre direction, etc. Et vous avez le type d'une répartition au hasard soumise à des lois de probabilité, dans la mesure où vous avez un très grand nombre de particules. Une fluctuation, c'est donc lorsque une grande proportion de ce grand nombre de particules, ou bien une proportion importante, se trouve dans une même région. Immédiatement, je dis, c'est corrigé, c'est annulé. Pourquoi ? À cause, nous disent Prigogine et Stengers, à cause de la diffusion, en effet en milieu fluide, c'est à cause de la diffusion qui couple toutes les régions du système. C'est parce que la diffusion qui couple toutes les régions du système, et notamment qui couple la région fluctuante, c'est-à-dire la région où a apparu la concentration anormale de particules, avec l'environnement, c'est parce que la diffusion entre, donc la région où a lieu la fluctuation et l'environnement, est très élevée, que la fluctuation est immédiatement compensée et la répartition des probabilitaires des particules rétablie. C'est donc la diffusion. Bon. Alors, la réponse à ma question, c'est donc, il faut que un seuil soit franchi pour qu'une fluctuation ne soit pas annulée, ne soit pas compensée, mais soit amplifiée. Pour qu'une fluctuation s'amplifie au point d'engendrer un nouvel état, qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait que la région fluctuante soit d'une manière ou d'une autre à l'abri. De la rapidité de diffusion qui rétablit l'état moyen. Prigogine y va même loin parce qu'il dit, vous savez, ça vaut pour nos sociétés aussi. Il y a tout le temps. Comment expliquer que nos sociétés très organisées, très complexes, soient si stables, alors qu'à chaque instant se forment des fluctuations, c'est-à-dire des écarts par rapport à la moyenne. Et bien, il dit, c'est qu'il y a un équivalent de la fluidité, c'est la rapidité de l'information. C'est pour ça que la rapidité de l'information, c'est fondamentalement quelque chose C'est lié au maintien de l'ordre. C'est la rapidité de l'information qui immédiatement annule les fluctuations, les ramène à les amas. Et il dit, là, dans une page intéressante, il dit, ben oui, c'est pour ça que les fluctuations qui risquent de survivre, elles ont très souvent leur origine dans des groupes marginaux. Parce que les groupes marginaux sont protégés contre la rapidité de l'information, de la diffusion. Alors ça se diffusera après, mais justement, ce sera une truc amplifié, une fluctuation amplifiante. Vous comprenez un petit peu? Donc, voilà la réponse à la question. Pour qu'une fluctuation, c'est-à-dire un écart, par rapport à un état moyen petit a, puisse s'amplifier, il faut que d'une certaine manière, il échappe à la rapidité de la diffusion. À quelles conditions est-ce qu'il peut échapper à la rapidité de la diffusion? C'est que si se fait une accumulation, alors en gros la réponse, oui, j'en vois même pas d'autre. Si se fait une accumulation dans un milieu restreint et que ce milieu restreint soit à l'abri du milieu environnant qui viendrait annuler la fluctuation, qui viendrait compenser la fluctuation, c'est-à-dire qui assurait son annulation par rediffusion. Il faut que le milieu restreint soit protégé de la diffusion. Là, en plein, vous avez à nouveau. Ça m'étonne qu'il n'y fasse pas référence. Je ne crois pas qu'il le fasse même dans le reste. Vous avez en plein une chaîne de Markov. Il donne un exemple très curieux, Prigogine. Il donne l'exemple des termitières, qui est typiquement, qui peut être interprété comme une chaîne de Markov. Alors c'est très intéressant, parce que la termitière, on peut se dire que c'est un tel chef-d'œuvre que c'est un système centré. C'est un système arborescent, centré. Non, pas forcément. Il y a une interprétation de la termitière qui est typiquement chaîne de Markov. À savoir, les termites transportent des petites boules de terre. Et puis, elles les lâchent en cours de route. Suivez, termites, vous transportez des boules de terre, vous les lâchez en cours de route. En les lâchant, les termites les marquent d'une hormone. Cette hormone a pour propriété d'attirer d'autres termites qui lâchent alors aussi. Bon, qu'est-ce qu'il faut pour que les piliers, ou au moins les piliers de la termitière, soient déjà établis? Il suffit d'un facteur aléatoire. Il suffit d'une fluctuation. À savoir que le hasard, l'aléatoire, aléatoirement, un grand nombre de termites et lâcher leur boule de terre dans une portion restreinte de leur territoire. C'est une fluctuation par rapport à la répartition moyenne des boules de terre. Vous me suivez, on en aura vu aujourd'hui. Les termites, les... Ça, c'est le facteur aléatoire. Qu'un nombre considérable de termites lâchent leur boule de terre dans une portion restreinte du territoire des termites. là-dessus, tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne, c'est-à-dire, si ça se fait, ça, vous avez une portion du territoire qui, par nature, résiste déjà à la diffusion. Pourquoi ça résiste à la diffusion? À cause de l'hormone, qui attire d'autres termites, qui vont poser leur boule de terre aussi. Et vous aurez à égale distance des piliers qui s'élèveront. Pourquoi égale distance? La distance sera égale à la portée olfactive de l'hormone. Voilà. Le début, au moins, car il faut aller très lentement, il faut être prudent. Le début de la construction d'une termitière peut être ici assimilé à une chaîne de Markov. C'est-à-dire une succession de phénomènes aléatoires semi-dépendants. Vous voyez que le facteur de détermination, c'est l'hormone, le facteur aléatoire, c'est le lâcher au hasard des boules de terre, la condition pour que la fluctuation s'amplifie, c'est un certain nombre de termites lâchent leur boule de terre dans une périphérie très, très restreinte. Ça, c'est le troisième, quatrième ordre de recherche. C'est les recherches d'un cybernéticien aussi, d'un biologiste cybernéticien qui s'appelle Pierre Vendriès, V-E-N-D-R-Y-E-S. Ne le confondez pas avec un autre, Vendriès, c'était son père et il était linguiste. Et Vendriès, son schéma est très simple. Alors je vous le dis parce qu'il est très beau en même temps et puis il va nous faire avancer. Il dit: essayons de définir le vivant par la constitution des milieux intérieurs. L'organisme, c'est une instance qui s'est constituée à un milieu intérieur. Et plus le milieu intérieur est solide, et on voit ce qu'il veut dire, c'est en plein dans notre problème, du coup. Vous voyez, on retrouve la notion de milieu intérieur maintenant, mais à un autre niveau. À savoir, en effet, le milieu intérieur, c'est dans le territoire d'un vivant, ça fait partie du territoire du vivant, et il est d'autant plus consistant qu'il a acquis ses autorégulations, donc il échappe à la fluidité du milieu extérieur, où il échappe à la diffusion. La constitution d'un milieu intérieur et à la lettre une c'est curieux que j'ai perdu le mot maintenant, une fluctuation amplifiante. Quelle est la conséquence immédiate du milieu intérieur? La conséquence immédiate du milieu intérieur, c'est que le vivant va entrer ou va pouvoir entrer en relation aléatoire avec le milieu extérieur. Un vivant qui a un milieu intérieur entre par là même en relation aléatoire avec le milieu extérieur et non plus en relation de déterminisme. Pourquoi? Il faut voir de quel point de vue. Un milieu intérieur implique constitution de réserve. Le vivant a donc des réserves. En tant qu'il a des réserves, il n'a pas besoin du milieu extérieur. Donc vous voyez, les conditions sont très précises.
Bon courage à tous.
Merci. Vous voyez, hein, je ne sais plus ce que vous voyez. Oui, bien entendu. S'il vivant a faim, par exemple, il n'est pas en relation aléatoire avec le milieu extérieur, hein, comprenez. Il a faim, il cherche à manger à l'extérieur. Mais ce n'est pas notre problème. Nous ne considérons pas le vivant en tant qu'il a faim. Nous considérons le vivant en tant qu'il a des réserves constituées par ses milieux intérieurs. Donc, au moment et dans la mesure, et pour autant qu'il a des réserves constituées par son milieu intérieur, il est indépendant du milieu extérieur, tant que durent les réserves. Il en sera à nouveau dépendant, réserve épuisée. J'ai par exemple dans mon organisme des sucres, des protides, etc. Je peux attendre pour manger. Je suis indépendant de mon milieu extérieur. Qu'est-ce que je fais alors? C'est bien connu, je me balade. Je me balade. Qu'est-ce que c'est une balade? C'est une entrée en relation aléatoire avec le milieu extérieur. Si j'ai faim, je ne me balade plus. Si mes réserves sont épuisées, c'est fini, ça. Enfin, je me balade où je dors. Et si je ne dors pas, bon, ben je me balade. C'est la flânerie, quoi. Les lions, tantôt dorment, tantôt flânent, tantôt se baladent. Qu'est-ce que ça donnera? En d'autres termes, je suis en relation aléatoire avec le milieu extérieur. Est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que ça va donner, la relation aléatoire du vivant? L'autonomie du vivant se définit par sa relation aléatoire avec le milieu extérieur. Et bien plus, Vadriès va très loin, puisqu'il y a, là, c'est parfait, il y a une autonomie organique qu'on vient de définir, mais il y a aussi une autonomie intellectuelle. Et elle est vérifiée par l'hypothèse. Car l'hypothèse, c'est la relation aléatoire de l'idée avec le monde extérieur. C'est un bon, une bonne idée, une double autonomie. Là, ça concerne le cerveau. Le cerveau, en tant que milieu intérieur, entre dans une relation aléatoire avec le monde extérieur. Cette relation aléatoire est effectuée par ce qu'on appelle les hypothèses. Alors, qu'est-ce que ça va être, l'allure du mouvement de la flânerie, de la balade? Il va très bizarrement, ça va ressembler à un mouvement brownien. Mais ça ne va pas être un mouvement brownien. Voyez ? Et Vadriès, pour désigner ce type de mouvement, ça ne va pas être un mouvement brownien, puisque le mouvement brownien est défini par l'indépendance des particules dans un milieu de diffusion, dans un milieu fluide, idéalement fluide. Là, au contraire, il s'agit de la relation aléatoire d'une particule pourvue d'un milieu intérieur contre-aléatoire. Le milieu intérieur est en effet contre-aléatoire. Vous comprenez un peu, sinon, je ne sais pas, vous êtes peut-être déjà, vous êtes peut-être trop fatigué. Mais j'en arrive presque au bout. Vadriès, il était finalement, oui, et il dit, regardez, il prenait comme exemple, et il a été un des premiers à photographier les mouches ou les moustiques qui volent. Le vol des mouches et des moustiques. Et c'est évident que c'est un mouvement très proche, qui semble très proche d'un mouvement brownien. Allez. Dans des conditions de fluidité idéale, on a l'impression que les mouches, les moustiques se comportent tout à fait. Hein. Un mouvement brownien, vous avez déjà vu des mouches voler. Mais c'est une différence absolue. Il y a une différence absolue, encore une fois. Puisque au lieu de particules indépendantes, vous avez un double mouvement, relation aléatoire avec le milieu extérieur, en tant qu'elle dépend d'un milieu intérieur contre aléatoire. Il appellera ça un mouvement bronoïde. Il ira jusqu'à dire que l'histoire des hommes est pleine de mouvements bronoïdes. Même dans un livre un peu bizarre de la probabilité en histoire, il analysera l'expédition de Bonaparte en Égypte, l'expédition d'Égypte et la fameuse poursuite Napoléon-Nelson en termes bronoïdes. En disant en effet que ça a été absolument une chaîne de parcours quasi brownien que Napoléon a fait, que Nelson poursuivant Napoléon a fait, chacun ignorant où l'autre était, et qui parcourt la Méditerranée comme ça, vraiment dans des distributions au hasard, mais déterminées par les réserves qu'ils ont. Tout à fait, bon, tu peux trouver ça en histoire. Pour aller très très vite, ça reviendrait à dire quoi, hein? Ça m'intéresserait beaucoup, ça revient à dire que l'histoire, elle ne cesse pas d'être parcourue par ces mécanismes semi-aléatoires. Ou si vous préférez, Ruyère a une très jolie formule dans son livre « La genèse des formes vivantes ». L'histoire, ce n'est pas du logos, c'est du jargon. L'histoire jargonne. C'est du jargon. Elle opère, ce n'est pas du hasard, ce n'est pas du déterminisme, ce n'est pas l'idée, c'est-à-dire ce n'est pas le logos. C'est des phénomènes aléatoires partiellement dépendants. C'est des chaînes de Markov. Car ce que Vindriès appelait Ibsen d'une manière encore imparfaite, mouvement bronoïde, on a tout intérêt, il me semble, à en faire la théorie systématique sous la forme de chaîne de Markov. Le rapport avec le milieu, le rapport aléatoire avec le milieu sera du type chaîne de Markov, c'est-à-dire phénomène aléatoire partiellement dépendant. Exemple du phénomène aléatoire partiellement dépendant par excellence, la course d'un taxi dans une journée. C'est très proche d'un mouvement brownien. La course d'un taxi dans une journée, ça a passionné les sociologues. Il y a beaucoup de gens qui se sont occupés de la course d'un taxi dans une journée. Mais vous voyez bien que c'est quand même pas exactement brownien. Pour une raison très simple, c'est beaucoup plus un enchaînement de phénomènes aléatoires partiellement dépendants, puisque chaque course dépend partiellement de la course précédente, ne serait-ce que du point de vue de la prise en charge. Si bien que la course d'un taxi dans une journée est beaucoup plus proche d'une chaîne de Markov que d'un mouvement brownien. C'est ce que Vindriès essayait de dire en parlant de mouvement bronoïde et non pas brownien. Bien, lorsqu'il revient à dire quoi, tout ça? Ben, que d'une certaine manière, voilà, on tient peut-être notre solution. Je veux dire, tout ça, qu'est-ce que ça nous amène? Les chaînes de Markov, s'il fallait essayer d'en donner une formule, alors pas scientifique, une formule philosophique, je dirais, c'est un ensemble de réenchaînements sans enchaînement préalable. Et ça, alors du coup, j'y tiens. Pourrais-je m'en foutre, c'est pour arriver à ça. C'est pour arriver à cette chose qui pour moi fait mystère. Comment est-il possible qu'il y ait des réenchaînements s'il n'y a pas d'enchaînement? Supposez que des enchaînements se fassent au hasard, mais les réenchaînements ne sont pas au hasard. Voilà, je dirais une chaîne de Markov, c'est ça. Il n'y a plus d'enchaînement, il n'y a plus que des réenchaînements. C'est-à-dire, des thèmes indépendants l'un de l'autre se réenchaînent au lieu qu'il y ait enchaînement de thèmes dépendants. Au lieu qu'il y ait enchaînement de thèmes dépendants, il y a réenchaînement de thèmes indépendants. Il y a un primat du réenchaînement sur l'enchaînement. Ce n'est pas la première fois. Et les chaînes de Markov nous donnent la structure mathématique d'un tel événement. Alors, ça m'apporte beaucoup. Parce que c'est ma réponse à comment se fait la transmission dans le cerveau. La transmission dans le cerveau se ferait par réenchaînement entre séries indépendantes. Ce serait beaucoup plus proche des chaînes de Markov, d'où l'idée d'un cerveau probabilitaire, beaucoup plus proche d'une chaîne de Markov que d'une transmission électrique. Mais alors on tient tout. Parce que je passe au dernier aspect que j'annonce juste. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour le cinéma? Est-ce qu'on ne pourra pas dire aussi qu'il y a deux régimes de l'image très différents de ce point de vue-là? Il y a eu un régime de l'enchaînement des images qui a inspiré la conception classique du montage. Et c'était un enchaînement sensorimoteur des images. Mais est-ce que le cinéma dit moderne ne nous proposerait pas des structures très différentes qui seraient des réenchaînements d'images indépendantes? Il n'y aurait plus d'enchaînement, il n'y aurait que des réenchaînements.